Chapitre 8. Kara se relève subitement. Je la regarde étrangement. Elle me dévisage, puis elle se recule. Je hausse les sourcils. Elle contourne le lit et prend une chaise en bois derrière la porte, sur laquelle elle s'assoit juste en face de moi, qui suis couché sur le lit et encore attaché. Je ne comprends pas ce qui se passe. « À quoi tu joues? Pourquoi tu t'assois sur cette chaise ?» Elle ne prend pas la peine de me répondre. Elle ne daigne même pas me regarder. Elle commence à m'énerver. Je déteste qu'on m'ignore, et encore plus quand c'est elle. Elle passe ses mains sur sa cuisse droite, ce qui laisse apercevoir le holster qu'elle porte, et qui n'était pas visible sous sa nuisette. Elle sort son arme, vérifie qu'elle est bien chargée, et la pointe sur le milieu de mon visage. Je l'assassine du regard en serrant les poings. Je suis impuissant, à sa merci. « C'est quoi ton putain de problème ?» Je la questionne en tirant sur mon poignet. Kara ne répond pas. Si elle le décide, elle peut m'achever dans la seconde avec une seule balle. Je tente de tirer sur la menotte, mais je suis bien attaché. « Réponds-moi !»«
Arrête de crier et de bouger !»
ordonne-t-elle sèchement. Je ne la reconnais pas. Son visage n'affiche aucune expression. Nous étions sur le point de partager une nuit passionnelle, et désormais elle pointe une arme sur mon visage. « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Réponds-moi !» Je lui ordonne en hurlant. Kara reste silencieuse. Elle me détaille toujours avec son arme pointée sur moi. J'essaie en vain de me libérer des menottes.
« Je t'ai attendu pendant des heures, menottée à ton lit pour te faire croire que Mathieu m'avait donné ce gage. » Je t'ai laissé me toucher pour que tu penses que j'étais encline à baiser avec toi cette nuit. »
Me révèle-t-elle froidement. J'écarquille les yeux face à la froideur et à l'indifférence qui se dégage d'elle. Elle s'est foutue de ma gueule. C'est quoi son but? Qu'est-ce qu'elle me fait? Je cesse de me débattre pour me calmer. Alors Kara se relève de sa chaise et dépose son arme sur celle-ci. Elle se dirige vers le canapé de la chambre, puis elle retire sa nuisette d'un geste vif sous mon regard. Elle enfile un pantalon, un haut, une paire de bottines noires et attache ses cheveux en une queue de cheval. Et elle retourne s'asseoir sur la chaise en bois face à moi. Elle récupère son arme et s'amuse à la charger, puis à la décharger. Elle lève enfin la tête et m'adresse la parole.
« T'as pensé avec tes couilles ?» Et t'as été suffisamment con pour te laisser menotter, en pensant que j'allais assouvir un de tes putains de fantasmes. Maintenant tu vas fermer ta gueule.
Je me retiens de hurler. Je me contiens, mais ça devient de plus en plus difficile. T'as réussi à menotter un lit, et tu penses que c'est pour ça que je suis devenu ta petite merde? Je réponds avec haine. Elle me détaille avec indifférence.
Je te conseille vraiment de fermer ta grosse gueule. Pour une fois, et d'ouvrir tes oreilles pour écouter attentivement,
crache-t-elle en me fusillant du regard. Je serre de plus en plus les poings. Je ne supporte pas le manque de respect. Beaucoup sont morts pour avoir prononcé des mots moins violents que les siens. Détache-moi, et on pourra parler comme des adultes. Je tente.
Ne t'inquiète pas, je te détacherai mais pas tout de suite. Pour l'instant, je veux être sûr d'avoir ton attention.
« Ouvre-la ta gueule, puisque tu sembles si pressée !» Je lui dis. Elle est fière d'avoir eu un coup d'avance sur moi. Je peux le voir dans ses yeux.
Le jour où Ilian et Mathieu ont eu un accident, j'ai été à l'hôpital, mais pour d'autres motifs. J'étais dans ma voiture et j'ai commencé à tousser et à cracher du sang. Je ne pouvais plus respirer. Je me suis évanouie et j'ai failli y passer.
Me raconte-t-elle. Elle poursuit son histoire.
Heureusement pour moi, j'ai été transporté en urgence à l'hôpital. Un docteur formidable m'a sauvé, et il m'a dit que j'étais malade. Il n'a pas eu le temps de me donner les détails, puisque dès que j'ai su que les garçons avaient eu un accident, je me suis tiré précipitamment. Le médecin m'a filé son numéro pour que je l'appelle pour savoir ce que j'avais. Je devais lui téléphoner dès que j'avais une minute de libre, mais, idiote que je suis, j'étais bien trop occupé à me faire baiser par toi.
Explique-t-elle en serrant les poings. Ma haine redescend progressivement. Mon cœur se serre en entendant qu'elle est malade et qu'elle a failli mourir sans prendre la peine de m'en informer. Une multitude de questions se bouscule dans mon esprit.
Mais la plus importante est, Chiara va-t-elle mourir? Si elle avait simplement voulu m'informer de sa maladie, elle ne m'aurait pas attaché, et elle ne me regarderait pas avec autant de haine et de rancœur. Elle m'en veut pour une raison qui m'échappe. Je n'émets aucun commentaire. Je préfère la laisser me raconter ce qu'elle a vécu ces derniers jours sans l'interrompre. J'ai téléphoné au docteur ce matin. Je suis tombé sur sa messagerie. Je suis allé chez lui pour avoir mes résultats. Quand je suis arrivé à son domicile, j'ai vu avec horreur que lui et toute sa famille avaient été torturés et abattus. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait de l'œuvre d'un psychopathe et que cette histoire n'avait aucun rapport avec moi. Après tout, comment j'aurais pu être responsable de la mort d'un homme et de toute sa famille sans les connaître? Ensuite, j'ai appris qu'il avait laissé mes résultats à sa secrétaire. Je suis donc allé à l'hôpital. Cette femme était sur le point de se faire buter par deux hommes, sûrement ceux de Monsieur X, puisqu'il voulait les papiers. J'ai immédiatement compris que toute cette merde, c'était à cause de moi. Heureusement, j'ai réussi à la sauver et à récupérer mes résultats si convoités. Elle tente de déceler la moindre émotion dans mon regard, mais je reste indifférent. Elle est au courant. Passons aux choses sérieuses. Il est temps de te raconter la partie la plus importante de l'histoire.